Médias d'Afrique, Alain Focat.
Lorsque l'on parle des Africains, il n'est généralement question que de la traite négrière, de l'esclavage et de la colonisation qui a marqué leur histoire. Et lorsque l'on veut être un peu positif, on parle de leur performance dans l'athlétisme, dans le sport ou dans la musique. Lui a choisi de montrer, de faire connaître, de vulgariser ce dont on ne parle jamais, ce qui pourtant ont apporté d'importants changements dans le fonctionnement de notre monde. Les grands inventeurs noirs, les grands scientifiques noirs que l'histoire semble avoir oubliés. Ils existent. Ils ne sont pas qu'une poignée. Et Patrice Tony-Faudé, notre premier invité de ce jeudi, a décidé dans son livre intitulé « Devoir de vérité aux Noirs » de les faire connaître, de montrer que la race noire s'est elle aussi inscrite dans l'histoire. Bonjour Patrice Tony-Faudé.
Bonjour Monsieur Focard.
Ils pensent que le Sénégal, leur pays, est l'endroit où le chef d'entreprise futé doit investir. Ils voyagent à travers le monde pour présenter les avantages du pays de la Teranga aux investisseurs, aux hommes d'affaires. Ils organisent les 20 et 21 novembre prochains à Montpellier, dans le sud de la France, un rendez-vous d'affaires sur le Sénégal. Investir au Sénégal. Sané Saloum, le président de ce business affaire, c'est comme ça qu'on dit,
business club.
De ce business club, est notre invité, notre second invité du jeudi. Il est accompagné de son conseiller spécial, Monsieur Amadou Ba. Nos trois invités vont répondre aux questions des journalistes qui sont en ligne dans plusieurs pays du sud du Sahara. Bonjour messieurs.
Bonjour Monsieur Focard.
Qui est venu de Montpellier, Monsieur Sané.
Sané Saloum, tout à fait.
Et Monsieur Ba, lui est à...
Je suis résident au Gabon.
Ah, il est venu du Gabon. Eh bien, ici, toute l'Afrique est représentée, enfin presque. Bonjour à tous et bienvenue dans cette tribune de la Radio Mondiale où chaque jour s'installe la presse africaine pour se faire entendre à son tour. Tout de suite, nous mettons le cap plein sud. Nous prenons la direction de Yaoundé au Cameroun où nous attend Rodrigue Tueno. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Alain, bonjour à nos invités.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, première question au président Sané Saloum. Pourquoi un demi-siècle après les indépendances, lorsque les pays francophones songent à attirer les investisseurs, leur priorité est encore et toujours la France? L'ancien pays colonisateur est-il le seul partenaire véritable du Sénégal ou alors l'ancienne colonie est encore tenaillée par le complexe du colonisé?
Ça commence fort.
Très bien, Rodrigue. En fait, notre démarche n'est pas celle-là que vous comprenez certainement. Nous ne nous positionnons pas dans un cadre colonisé et colon, non. Si vous regardez au niveau des chiffres, vous verrez la France, dans l'espace Union européenne, reste le premier partenaire du Sénégal au niveau des importations, également au niveau des exportations. Donc, de ce point de vue, qu'on le veuille ou pas, c'est un partenaire non négligeable et pour avoir étudié ici au niveau supérieur en France, ayant connu le système, ayant connu aussi le système de mon pays, le Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, travailler, contribuer à booster davantage la relation économique qui est déjà très bonne entre le Sénégal et la France, c'est quelque chose à saluer et à soutenir.
Bien, c'est parce que la France est le premier partenaire du Sénégal.
Exactement.
Et également parce que vous vivez ici en France.
Tout à fait.
Puisque vous êtes installé à Montpellier, dans le sud de la France. Rodrigue, tu as une autre question?
Une autre question, Alain. Président Saloum, parlant des investissements au Sénégal, qu'est-ce que le pays de la Teranga offre d'attrayant une fois qu'on a situé le tourisme?
Alors, les deux vont répondre.
Bien évidemment, il y a le tourisme qui est certes un secteur majeur dans l'économie du Sénégal. Mais, M. Rodrigue, n'oubliez pas que, entre autres secteurs, nous avons l'agriculture et l'agroalimentaire qui est un secteur très important. D'ailleurs, si vous voyez bien un tout petit peu l'actualité récente, le président Ouad avait lancé, il y a de cela bientôt 2 ans, la Goana, la grande offensive pour l'agriculture, la nourriture et l'abondance. Donc, c'est tout un programme qui veut sortir le Sénégal de la faim. Je dirais même pas de la faim, mais faire en sorte que le Sénégal puisse atteindre son autosuffisance alimentaire et propulser davantage le pays dans la transformation des produits agricoles et faire en sorte que les Sénégalais puissent faire consommer local.
Très très concrètement, quels sont les avantages qu'offre le Sénégal? Je crois que c'est
les
la question.
Les avantages que notre pays offre aujourd'hui un peu partout, c'est vous allez dans le secteur du tourisme, vous en avez plein, beaucoup d'avantages. Dans le secteur
fiscal,
de l'agriculture et l'agroalimentaire.
Ce sont des avantages fiscaux, c'est des avantages comment? Qu'est-ce qui peut inciter quelqu'un à dire... Je vais investir au Sénégal.
L'environnement des affaires est sain. il a été assaini, il y a moins de taxes, il y a moins de démarches. Vous allez dans les agences de l'État qui existent depuis bientôt 10 ans. Vous pouvez créer votre société en 48 heures, ce qui est avec le système du guichet unique, ce qui est quand même quelque chose de très, 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 très important pour un entrepreneur qui est pressé.
Monsieur Amadouba,
Il y a deux autres secteurs qui sont porteurs aussi au Sénégal. C'est le secteur des services orientés sur la télécommunication et les nouvelles technologies qui est très, très développé au Sénégal. Donc, c'est des secteurs qui sont à très forte valeur ajoutée. Je pense que les entrepreneurs qui vont se lancer dedans peuvent vraiment se faire des marges énormes à ce niveau-là. Il y a aussi le secteur de l'artisanat qui va souvent avec le tourisme.
Avec le tourisme.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal quand même est relativement très avancé. Si on regarde bien les résultats de la Banque mondiale, avec le doing business des deux dernières années, le Sénégal est bien placé donc par rapport aux autres pays africains. Donc,
Mais que cultive-t-on véritablement au Sénégal ? Les arachides, par exemple, le coton, quelle est la plante qui pourrait attirer un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture,
aujourd'hui,
de l'agroalimentaire ?
Aujourd'hui, je dirais tout simplement à tous les investisseurs potentiels qui sont intéressés par la destination Sénégal, lancez-vous dans l'agribusiness. L'agribusiness est devenu un secteur moteur de l'agriculture sénégalaise et il n'y a pas que l'arachide, certes, l'arachide c'est la France qui nous l'a donné, d'accord, mais il y a les cultures céréalières et vivrières au Sénégal. Pour être issu du sud du Sénégal, je peux vous dire que dans certains contrées du sud du Sénégal, on n'achète pas le riz parce qu'on le produit localement et en abondance.
Il y a aussi dans l'agro-business un point essentiel, c'est l'aspect transformation, c'est-à-dire transformation locale des produits, des matières. Souvent, on a vu que les matières premières retournées en Europe sont revendues de façon brute. Là, je pense que les entrepreneurs ont aussi une valeur ajoutée.
Il faut la transformation sur place.
La transformation sur place, ça permet aussi de donner plus d'effet de levier aux différents projets sur ce secteur-là.
Rodrigue Tueno, vous aviez une autre question, rapidement.
Rapidement, juste une dernière, Alain. Nos invités font de l'investissement dans l'industrie une priorité aussi, parce que j'entends parler de transformation. Est-ce réaliste dans un pays qui n'arrive pas à assurer le basique en matière d'énergie que constitue l'éclairage domestique? Dans un pays où le quotidien en matière d'énergie rime avec de l'étage, ne serait-ce pas suicidaire pour un capitaine d'industrie d'investir le moindre franc CFA ?
Alors, la question de l'énergie.
Non, à ce niveau, c'est vrai, la question de l'énergie, aujourd'hui, c'est un véritable problème pour pas seulement le Sénégal, mais pour presque tous les pays africains qui ne sont pas producteurs de pétrole, qui sont dépendants en tout cas de la
même
manne.
Même les producteurs de pétrole.
Voilà, même le grand Nigeria qui est à côté a souvent des problèmes d'énergie. Bon, mais comprenez bien, M. Rodrigue, que les autorités gouvernementales du Sénégal ont pris des mesures depuis un certain nombre d'années et je puis vous garantir que allez au Sénégal, vous verrez que même les villages les plus reculés bénéficient de l'électrification rurale, comme on le dit chez nous. Donc c'est un problème qui connaît, disons, une situation plus ou moins favorable vers une certaine autosuffisance énergétique, si je puis parler
on
de la
On va parler jusque là quand voilà. même, pas voilà. encore l'autosuffisance.
Il y a aussi au niveau des gouvernements une volonté de régler le problème énergétique en investissant dans l'énergie renouvelable. Je pense que même si aujourd'hui les projets sont en train d'être peaufinés, mais je pense qu'à long terme ce serait, je dirais, un point qui pourrait régler d'une certaine façon le problème énergétique au Sénégal.
Bien, merci Rodrigue et puis bonne soirée à Yaoundé. On va à Cotonou, on nous attend Benjamin Agon. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alain, bonjour aux invités.
Bonjour.
Et répondre très timidement, curieusement.
Bonjour.
Vous êtes endormi ou pas?
Non, pas du tout.
Bonjour Agon.
Bien, alors votre question.
Je voudrais directement m'adresser au président Sané. Je voudrais savoir, Monsieur Sané, beaucoup d'organismes investissent au Sénégal, mais souvent ce sont des extensions de l'État. Dites-nous concrètement, qui est derrière ces organismes?
Aha. Très bien. Très souvent, quand on se lance dans une action positive en Afrique, on voit la main de Dieu. Sinon, on voit la main du pouvoir. Je puis vous garantir que, certes, nous avons l'appui des pouvoirs publics du Sénégal, nous avons l'appui du secteur privé sénégalais, mais en aucune façon, cette initiative n'a été ou n'est portée par les pouvoirs publics sénégalais en tant que tel. Non, ça ressort du cadre privé. Nous sommes un groupe de jeunes cadres sénégalais, camerounais, djiboutiens et français. Notre devise, c'est la diversité culturelle. Et je le répète très souvent, c'est avec la diversité culturelle qu'on sauvera ce monde. Donc, nous ne sommes pas fermés. Et comprenez-moi, très sincèrement, il n'y a pas Il n'y a pas une main discrète derrière ce que nous sommes en train de faire. Nous avons et nous saluons le soutien des pouvoirs publics, notamment...
Mais on en a vu d'autres qui entamaient des opérations comme celle-là qu'ils visaient un poste de ministre ou de directeur général au pays. Non. Vous n'avez pas l'intention de partir de Montpellier pour entrer dans la politique bientôt?
Non, monsieur Foucault, si vous permettez, à notre place, nous faisons le travail, en tout cas, que nous entendons bien faire. Et nous ne recherchons pas une reconnaissance venant d'à droite ou d'à gauche, non. Mais ce qui nous pousse à travailler, c'est le pays, le Sénégal. Nous aimons ce pays et pour rien au monde, nous lasserons
de travailler pour ce pays. Mais vous parlez un peu comme un politique quand même, monsieur Amadou Ba.
Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est les personnes qui sont autour de ce club, de ce business club, je pense que c'est des personnes que je connais qui sont assez apolitiques. Donc moi-même qui parle, je suis basé au Gabon, j'ai aucune, couleur politique. Moi, ma seule motivation, c'est vraiment d'appuyer des gens qui ont vraiment une certaine volonté. Souvent, ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut pour aller investir quelque part. Je ne dis pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Et nous, on est là pour vraiment demeurer une plateforme, je dirais, pour fournir les informations fiables pour pouvoir investir facilement dans nos pays, notamment au Sénégal.
Je vais poser rapidement une question. C'est quoi la différence entre un business club et une association? Vous tenez absolument à ce qu'on dise business club.
Oui, M. Foucault, bientôt, et ça, nous pourrons nous permettre de l'annoncer publiquement ici, bientôt verra le jour de notre premier cabinet de consulting. Donc, vous voyez, c'est comme ce qu'il dirait...
C'est une entreprise.
Voilà.
Un business club, c'est une entreprise.
C'est une entreprise. On a l'esprit d'entreprise, nous travaillons comme dans une entreprise.
Avec des règles. Vous devez gagner également de l'argent.
Exactement.
Ce qui n'est pas le cas de l'association qui est à but non lucratif.
Non lucratif.
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Merci beaucoup.
Benjamin Agon, vous aviez une autre question?
Oui, seconde préoccupation, Alain, si tu le permets. Monsieur Sané, vous avez choisi Montpellier pour tenir votre forum. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons essentielles qui justifient ce choix?
Pourquoi Montpellier?
Tout à fait. Pourquoi Montpellier? Déjà, c'est une ville très dynamique. Et Montpellier, de par sa position stratégique, une ville méditerranéenne qui parle de la Méditerranée, bien entendu, on fait allusion à la proximité avec l'Afrique. Et qui dit l'Afrique? Ce Sénégal qui est là, la porte d'entrée de l'Afrique. Et cette proximité que
chaque
le Sénégal...
Chaque pays côtier se voit la porte d'entrée de l'Afrique.
Mais sincèrement, M. Foucault, le Sénégal, c'est sincèrement la porte d'entrée de l'Afrique.
Chacun voit midi à sa porte.
Regardez la carte de l'Afrique, vous verrez. Et non seulement
le Bénin aussi est
le Sénégal
est aussi une entrée de l'Afrique.
Monsieur Foucault,
Cameroun, le Gabon,
très bien,
l'Angola.
Mais nous sommes fiers, pour tout cela. Mais je vous assure, sincèrement, le Sénégal, de par sa position stratégique, c'est un hub au niveau sous-régional, hub maritime et aérien. C'est pourquoi j'ai dit au niveau sous-régional, c'est une plateforme incontournable et qui regorge, c'est un véritable gisement d'opportunités. Donc,
nous avons choisi la même chose.
Mais véritablement, au Sénégal, vous trouverez tout ce dont je vous parle de manière concrète. Véritable gisement d'opportunités. Donc, le fait d'avoir choisi Montpellier, c'est dû d'abord à sa position stratégique, dû également à son dynamisme et qui plus est, nous sommes installés sur place à Montpellier. Nous connaissons très bien la localité. Mais nous entendons effectivement porter davantage, un peu plus loin, Sénégal International Business Meeting, certainement dans cette grande métropole qui tient bien la France, c'est Paris.
Bien. Benjamin Agon, vous aviez une autre question?
Oui, une dernière préoccupation, mais à deux volets, si vous permettez. Monsieur Sané, les entreprises ont payé pour participer à ce forum. À l'ouverture, est-ce que vous avez réussi à faire l'effectif? Et est-ce que vous avez, à la fin, avec votre opération de charme, est-ce que vous avez suscité l'intérêt de ces entreprises?
Alors,
exactement. Benjamin, très bien, je vous dis très simplement que nous en sommes bientôt à la centaine. C'est aujourd'hui d'ailleurs que les inscriptions ont été closes.
Voilà.
Donc, j'ai pas encore fait les comptes avec mes amis parce que j'ai quitté Montpellier ce matin.
Mais là, on a le grand argentier qui est en face,
mais nous approchons la centaine ou peut-être même ça a été dépassé. Bon, peut-être éléments plus précis.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est prématuré de donner un petit bilan financier à ce niveau-là parce qu'on doit prendre toutes les informations pour essayer d'avoir les informations claires.
Étonné que vous disiez, nous avons 300 personnes et qu'ils ont tous payé leur cotisation ou bien qu'on n'a que 3 personnes qui finalement, on ne sait pas trop si on a eu raison.
On a organisé
un truc comme celui-là à Montpellier, tout ça.
Vous le verrez à travers les médias, il y a déjà, c'est certain, peut-être on dépassera la centaine de personnes pour cette première édition. Je ne vous mens pas, ça a été laborieux, certes. Mais oui, nous
mais en sommes
satisfaits.
Mais ça part d'un bon sentiment, et puis c'est une très bonne idée de faire connaître votre pays et de faire savoir qu'il est intéressant d'investir au Sénégal.
Exactement.
Et qu'on n'y va pas simplement pour se dorer au soleil.
Non.
On peut aussi faire autre chose, on peut également y investir. Benjamin, une dernière question ou vous aviez terminé?
Je crois que j'ai terminé mes questions. Je vais vous remercier et dire bonsoir aussi à M. Patrice Taïfoli que je connais bien.
Bonsoir, M. Agon.
Bonne guérison, Benjamin. Et puis on espère que la semaine prochaine, quand on sera à Cotonou, puisqu'on sera en direct dans votre ville mercredi prochain, vous serez guéri. Alors, cette fois, on retourne à Paris où nous attend la langue vipérine, serpentine. J. Rémingono de la maison des journalistes.org. Bonjour, J.
Bonjour, Alain. Bonjour, monsieur Patrice Tony Fodé.
Bonjour, monsieur.
Les Africains doivent se prendre en main. C'était déjà le refrain de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire lors du premier congrès des écrivains noirs organisé à la Sorbonne en 1956. Et c'est ce que vous écrivez sur la couverture de votre livre. Alors, se prendre en main maintenant, est-ce pour danser le couplet décalé? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Justement, c'est pas pour danser le couplet décalé, hein. Vous imaginez bien que je ne veux pas perdre mon temps à valoriser ce domaine que je combats, que j'ai toujours combattu, que je continue de combattre.
Ah non, vous n'avez pas à combattre, je vais dire le coupé décalé à sa place.
Non,
que
mais
soir,
oui,
que ce soit après une bonne journée
c'est
de travail ou
une culture,
le week-end.
C'est aussi une culture.
Voilà, ça fait partie de
c'est
la culture.
C'est aussi une culture africaine. Mais j'aimerais bien qu'on s'éloigne un petit peu
De la danse, du
de
sport.
De la danse, de la musique, de tous ces trucs-là, cette case-là dans laquelle on nous enferme. J'aimerais un petit peu qu'on s'en sorte, quoi. C'est dans ce but que j'ai écrit le bouquin, que j'ai essayé de valoriser, de faire connaître au monde entier ce domaine-là, qui est la technique, la science, qu'on a tant occulté.
Bien. Donc le but pour vous, c'est de montrer l'autre facette de l'Afrique, l'autre facette des Africains, des Noirs d'accord. en général, d'accord. qui n'est pas très, très connue, puisqu'on ne parle que de coupé décalé, justement, de danse, de sport, dès qu'on dit noir. On voit tout de suite un grand musclé qui court voilà. Soit derrière un ballon, soit dans un stade après un coup de fusil. Alors, une autre question, J.
Un proverbe africain dit, je cite, « L'âne porte les livres sur son dos, mais il ne sera jamais savant. » Et vous savez que les Noirs hyper diplômés sont relégués aux tâches de valets dans les cénacles bien pensants de l'Occident. Or, dans votre livre, vous dites que les Noirs sont des savants et des grands inventeurs. Pouvez-vous nous citer leurs noms et leurs inventions?
Oh là, laissez la langue, hein. Si je dois vous citer tous les Noirs, on va y passer la nuit.
Et c'est vrai mais que je peux,
vous,
livre,
je peux vous évoquer quelques-uns. Morgan, par exemple, Gareth Morgan, c'est lui l'inventeur de feu tricolore. Hein, c'est aussi lui qui a inventé le masque à gaz. Je peux vous citer Woods, Granville Woods, c'est l'Edison noir. Il est à son actif au moins 6 brevets, sans ne compter que ceux-là. Je peux vous citer Latimer, celui qui a inventé la lampe à incandescence. La liste, elle est longue. Laissez-la vraiment longue.
Mais ça, comment c'est... expliquez-vous que la liste soit longue, comme vous dites, et dans votre livre, vous reprenez un certain nombre d'entre eux, et qu'ils ne soient pas connus, ces inventeurs, ces scientifiques?
Ben ça, c'est une excellente question, parce que c'est ce qu'on vient de dire, à peu près. Hein. Il faut noter qu'on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, et que le blanc qui nous a colonisés n'a jamais voulu nous mettre en valeur. Donc c'est à nous, les Noirs, de se dire stop, et de commencer par parler de tout ça, de faire ressusciter toutes ces vérités qui ont été enfouies pendant des siècles.
Alors, dans votre livre, on retrouve pêle-mêle comme ça, Félix Eboué, d'autres personnages de la politique également, des sportifs, on retrouve Toussaint Louverture, on retrouve Cheikh Anta Diop. Quelle est la relation entre eux? Est-ce que c'était finalement des gens qui avaient un lien? Quand on parle de Toussaint Louverture, je ne vois pas trop la relation avec Cheikh Anta Diop, ou encore, c'était des personnages importants, tout simplement, que vous avez voulu citer?
Non, mais déjà, le livre, il est divisé en trois parties. La première partie, elle est portée sur les inventeurs. Deuxième partie, sur les politiques, les défenseurs des droits civiques. Et la troisième partie, réflexion sur le monde noir à partir de l'Afrique, sur la langue africaine. Donc, vous évoquez Toussaint Louverture, le lien entre Toussaint Louverture et Cheikh Anta Diop. Pour moi, c'est des hommes politiques. C'est des gens qui ont œuvré à Dama pour le développement de l'Afrique. Cheikh Anta Diop, il n'est pas qu'un homme scientifique, il est aussi un homme politique. Il a œuvré à Dama pour le développement de l'Afrique, pour l'Union africaine, tout ça.
Vous aviez une autre question, J.
Oui, vous dites que l'Afrique noire doit quitter la zone franc. C'est franc, mais ça ressemble à une chanson de 1848 lors de la seconde abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, cher berger Tony Fodé, si tous ces anciens moutons africains qui se sont affranchis du franc colon se porte-t-il bien économiquement?
Oh, vous savez, je préfère qu'on se prenne en main, qu'on parte de ses propres valeurs et d'émerger après. C'est ce que fait un petit peu l'Asie, et vous avez vu ce que ça donne. Même si la Tunisie, je sais de quel pays vous voulez faire allusion, la Tunisie, le Vietnam, tout ça, même si ils n'ont pas pu émerger comme il se doit, mais les pays... Non, mais
la Tunisie n'est pas dans le même cas. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la Guinée qui a quitté la zone CFA, qui a fait le Sili. C'est pas extraordinaire.
Oui, ce n'est pas que ça qui fait le développement d'un pays. Mais la monnaie est importante dans le développement d'un pays. Donc c'est un facteur parmi tant d'autres.
Pour vous, c'est un élément qui lie encore ces pays-là
tout
à l'ancienne puissance colonisatrice.
Tout à fait. Il faut noter qu'il y a un dessous à tout ça. Les pays qui utilisent encore le franc CFA, est-ce que vous savez par exemple qu'ils payent 65% de leurs revenus annuels au trésor public français?
Non, quand même pas.
Si, tout à fait.
Comment payerait-il cela au trésor public français pour être arrimé à l'euro aujourd'hui?
Tout à fait. Tous les pays qui sont dans la zone franc payent 65% de leurs revenus à l'État. Au
nous allons vérifier ça pour une fois. J'en suis pas certain. Nous allons vérifier et puis on verra ça dans une prochaine émission. Je rappelle le titre de votre livre, Devoir de vérité aux Noirs. Les Noirs doivent se prendre en main, aux éditions Ménébuc. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de France et d'Afrique, je suppose. Est-ce que Jupon avait une autre question?
Je suis arrivé au terme de ma période d'utilité.
À bientôt, Jupon. Bonne soirée. Moi, j'avais une question. Vous dites que le 7 novembre devrait être décrété comme journée de vulgarisation de l'histoire des Noirs en France et dans les dom-toms.
Tout
pourquoi
à fait. Parce que le 7 novembre, c'est le jour où Gaston Monnerville est mort. Donc, Gaston Monnerville, c'est un grand monsieur qui a été la deuxième personnalité de l'État pendant plus de 20 ans, de 1947 jusqu'à 1968. Mais personne ne le connaît.
Nous avons Pierrot Kossi à Turbé en ligne. Bonjour Pierrot.
Oui, bonjour Alain.
Ça va Lomé?
Oui, ça va, on vous attend.
Vous nous attendez, on ne va pas tarder à arriver. On est même très pressé d'arriver à Lomé. Alors, votre question.
Oui, une question. Vous rêvez, Tony Faudet, vous rêvez d'un président noir en France en 2017. C'est bien que cela soit un rêve, mais sincèrement, est-ce que c'est possible?
C'est possible. Qui est-ce qui pouvait penser un instant qu'Obama serait président aujourd'hui? Quand Obama a commencé sa lutte, tout le monde se moquait de lui. On le prenait pour un petit rigolo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, il ne faut jamais désespérer. C'est possible.
Donc, vous voyez cela dès 2017?
2017, c'est possible, mais à condition qu'on s'y attelle, qu'on y travaille.
Qui doit s'y atteler?
Tout le monde, là. Tout le monde.
Tout le monde doit s'y atteler.
Notamment les Noirs, en premier.
Bon, vous voyez ça en ces termes-là. Vous aviez une autre question, Pierrot?
Oui, ça pourrait revenir sur la question que vous posiez il y a un instant. Vous souhaitiez que le 7 novembre soit dédié à la vulgarisation de l'histoire des Noirs en France. Si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de trace d'une telle célébration, même sur le continent noir.
Oui, tout à fait, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne va pas le faire. C'est pas parce qu'on ne le fait pas en Afrique qu'on ne va pas le faire nulle part.
C'est peut-être l'Afrique qui doit montrer l'exemple au départ, voilà. C'est-à-dire l'Afrique est la première concernée.
Si les dames ne viennent pas de l'Afrique, des Noirs africains, ça peut venir des Noirs de la France ou de la diaspora. Pourquoi pas?
Merci Pierrot, et puis on se retrouve bientôt, hein. On est chez vous dès lundi, la première émission sera enregistrée à l'université de Lomé lundi à partir de 10h. On vous donne rendez-vous, venez nombreux à ce rendez-vous, puisque nous allons débattre ensemble des échéances prochaines, les présidentielles qui vont avoir lieu au mois de février 2010. À bientôt Pierrot. Nous arrivons malheureusement au terme de la première partie de ce magazine. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et nous vous remercions d'être passé nous voir. Je rappelle que le forum Investir en Afrique...
Non, c'est plutôt, ça s'intitule Sénégal International Business Meetings, premier rendez-vous d'affaires sur le Sénégal en France, les 20 et 21 novembre à l'hôtel Mercure, Montpellier Centre. Voilà.
Très bien. Mais on espère que vous serez nombreux à aller sur place et puis que les Sénégalais qui nous écoutent, qui vont passer par la France, viendront présenter leur pays sous une autre forme que le soleil et les plages.
Très bien.
Et puis, Monsieur Tony Faudet, vous aviez quelque chose à dire pour terminer rapidement.
Oui, j'ai un petit peu à rajouter parce que tout à l'heure, quand Rodrigue nous posait la question à ces deux messieurs, il a évoqué une question très importante.
Très rapidement.
La question de l'énergie. Mmh. À cet effet, je viens d'inventer une centrale, pluviolique, pour pallier au problème de délaissage que nous connaissons. Au Bénin en particulier et en Afrique en règle générale.
Votre centrale que vous venez d'inventer est déjà prête?
J'ai eu le brevet de l'EEB. l'office européen de Beauvais.
Et donc,
de l'Allemagne, à Munich.
Et donc, ce sera bientôt vulgarisé, ce sera bientôt commercialisé.
Ce sera bientôt fait. J'attends, j'ai lancé un appel solennel à tous les pays africains qui nous entendent.
Alors, quand vous dites que ça va résoudre le problème de l'énergie, c'est-à-dire, vous pouvez alimenter une ville,
c'est une centrale. J'appelle ça l'énergie portable. Si une maison le veut, on le lui fait. Si un village le veut, on le lui fait. Si un hameau le veut, on le lui fait. Si une ville le veut, on le lui fait.
Hydroélectrique,
ça fonctionne à partir de l'eau de pluie. Comme je suis toffant, on va construire un lac à une certaine hauteur. Et c'est l'énergie potentielle qui va faire tout le travail. L'énergie potentielle va passer à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique va passer à l'énergie électrique. On va mettre un transfo pour amplifier tout ça.
Alors, je dois rappeler que vous êtes également ingénieur.
Oui, on ne va pas résoudre que le problème de l'électricité. On va résoudre aussi le problème de l'inondation.
Pardon, j'ai pas entendu.
On va résoudre aussi le problème de l'inondation.
Des inondations qui frappent la plupart des pays. Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous aurons un autre invité, un quatrième invité ce jeudi, c'est un peu spécial, M. Edgar Guidibi, qui nous parlera de marketing et communication. Et puis dans cette seconde partie, nous écouterons vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Médias d'Afrique au 00331-5640-5592. 00331-5640-5592. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.